Bon jouir, c'est Agathe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et ça y est, nous voici dans les dernières minutes de votre dimanche. Ces derniers instants où peut-être vous êtes en train de déprimer, de réfléchir à votre planning de cette dernière semaine, et je vais dire dernière encore une fois, avant Noël, la pire en fait, la dernière semaine de l'année presque professionnelle souvent. Pas tout le temps, on n'est pas tous en vacances le 22 décembre, c'est vrai. Mais néanmoins, cette semaine où ensuite il n'y a plus personne derrière les téléphones, les ordinateurs, et donc il faut avoir tout bouclé avant la fameuse trêve des confiseurs. Alors si vous êtes dans ce sprint-là, eh bien gardez-vous encore ces 58 minutes, 57, 56 minutes peut-être maintenant à venir pour vous, rien que pour vous, histoire de vous remonter un petit peu le prépuce et les tétons, de vous réjouir en tout cas de cette semaine à venir, de trouver un moment d'intimité plaisante et de jouissance. Bah oui, voilà. Alors c'est Bon Jouir qui va commencer. On salue bien bas, bien haut. On lève nos jupes pour les métalleux du coin et on leur dit un grand merci pour ce passage d'antenne toujours très chaud. Et on se retrouve, nous, bien pour une heure de plaisir. Car en effet, après 1h30 de métal de tout poil, ça va bien. Maintenant, il est temps de se mettre toutes et tous à poil sur Canal B. Bon Jouir, émission 149. C'est parti.
Bon Jouir.
Sur Canal B. Mais ce soir, je ne suis pas seule en studio. Et ça faisait bien longtemps, d'ailleurs, que cela n'était pas arrivé. Bonsoir, Chloé.
Bonsoir, Agathe.
Comment allez-vous ?
Bah, super bien, et vous ?
Ça va, pas mal, comme un dimanche.
Oui, hein.
Non, ça va bien, ça va bien. Et puis, on est à la maison des associations et ça sent un petit peu le chichi, le churros, la friture, autant dire, autour de nous.
Un petit graillon,
une petite odeur de graillout. Ouais. Ça sent aussi la barbe à papa. Ça sent le j'ai pas réussi à le dire tellement ça le sent, quoi. Le règlement de compte, je voulais dire, entre bandes rivales. Parce que qu'est-ce qui se passe à quelques pas, quelques encablures de nous, Chloé ? Que se tient-il sur cette grande place à Rennes quand nous sortons de la radio ? Il y a...
La fête foraine.
Ah. J'ai cru qu'on vous avait perdu.
Oui. Je pensais que vous m'attendiez ailleurs et puis non, finalement, la fête foraine.
Mais non, regardez, je vous attends là.
Pour une petite pêche au canard, d'ailleurs, à la sortie de l'émission. Je touche ma bille.
Vous touchez votre
bille.
Ah, pardon. J'étais pas sûre d'avoir bien entendu.
Je vous invite à pêcher du canard après.
Ouais, d'accord.
Vous savez, parce qu'il y a aussi des affrontements entre bandes où ils mettent des pièces dans une machine. Il faut taper le plus fort possible dans un... Voilà, on peut se défier à ça, si vous voulez.
Au gant de boxe, vous voulez dire ?
Ouais.
Je suis pas sûre.
Mais sans gants, en fait. Parce qu'il les prête pas, il me semble, ces petites machinettes.
Non.
Il faut taper à sec dans le sac.
Taper à sec dans le sac, ça me parle un peu, ça. C'est bizarre,
je vais écrire un petit rap là-dessus. Je tape à sec dans le sac. Voilà, j'ai pas la suite, finalement.
Bah, je pense que ça, c'est peut-être Michel Fourniret qui pourrait nous donner la suite. Allez, bam. Et ben oui, donc effectivement, taper à sec dans le sac, trempoter son churros dans le Nutella.
Ouh, ouais.
Le chichi, quoi.
Moi, c'était les croustillons que j'aimais beaucoup.
Ah oui, oui,
à l'époque. Ouf, ouf, ouf.
Oui, tout
c'est
à fait.
Cochon, ouais.
C'est un peu, ouais, c'est gras, hein, surtout.
Oui.
Et puis, bah, après, je vous propose qu'on aille, on grimpe sur King Kong.
Oui, allez.
Allez, où on se laisse grimper par King Kong. Je ne sais pas trop dans quel sens on prend cette attraction, d'ailleurs.
C'est celle-ci qui consiste à monter très haut dans le ciel et redescendre très, très bas.
Oui, c'est celle-là.
Bof, moi, je fais confiance à 2023, ça, personnellement.
Ouais.
Ouais, je sais pas, je préfère l'inverse, une attraction qui m'emmène très haut.
Très haut, au septième ciel.
Ouais.
Ben, ça peut être King Kong aussi, mais un reverse.
Je vais proposer le concept. On va y aller, puis je vais leur demander s'ils peuvent pas inverser la Corée. Je
sais pas. Ben, c'est assez fulgurant, hein, une fête foraine, je sais pas comment dire. Il y a un truc de très agressif dans les lumières.
Les sons.
Les sons. Mmh. Et...
Les sensations.
Voilà, donc... Mmh. Quel est le plaisir là-dedans, finalement, d'être dans une forme de je ne sais pas, de performance vis-à-vis de ses propres limites, hein,
oui, c'est un mini-tunnel, un vrai sas de beaucoup, de plein, de brouhaha.
Oui.
Peut-être qu'on ne s'entend plus réfléchir.
Mais est-ce qu'on réfléchit dans une fête foraine? Je suis pas bien sûre. Hein. Franchement, quand on voit les activités, tir à la carabine, lancer des boules dans des trous qui font avancer des chevaux, ça c'est encore la version coulos. Tirer sur des ficelles.
Et il y a les pinces aussi, non?
Ah, il y a les pinces qui évidemment ne marchent que si tu as dépensé 500 euros, je pense que sinon ça n'attrape jamais rien. Ouais. Oui, il y a les auto-tamponneuses, donc tu te fais tamponner royalement par une bande d'adolescents boutonneux plein d'hormones. Oui, il y a quand même un truc assez...
Tambourinant,
ça tamponne. À la fête foraine, ça tamponne, ça martèle, un peu comme mon voisin du cinquième. Salut Marco.
Ah, ok.
Spécial D
petite info.
À okay. Marco. Oui, voilà. Il va se marier d'ailleurs au mois de juin, donc bonjour, il lui
ça
adresse
a l'air de bien se passer,
toutes
en tout
ses
cas.
Félicitations, bah, bien sûr. Je pense qu'ils se sont rencontrés en haut de la grande roue et qu'après, ça a martelé dans toutes les attractions.
Et ben voilà.
Alors voilà. Voilà un homme qui sait emmener une femme au 7e ciel.
Sans
finalement.
La faire redescendre, vraisemblablement.
Non, c'est sûr.
Nous ne sommes pas tous des King Kong.
Et voilà, moi je trouve que vis-à-vis des sensations corporelles, c'est assez limité et ça manque un peu d'attraction sexuelle.
Sensorielle, oui.
Je vais même jusqu'à sexuelle.
Je suis trop sage pour cette émission.
Genre,
Bonjour les zouzous. Moi je vais faire ça.
Mmh, ouais.
Je me sens trop prude avec vous.
Ah, bah je suis désolée de vous choquer. Mais c'est vrai que je me disais par exemple, comment c'était ce film des frères Cohen avec. George Clooney qui avait inventé un fauteuil avec un god,
ah non,
un fauteuil
pas.
À bascule avec un god. Vraiment, il y avait un concept.
Ok. Et George Clooney s'asseyait?
Non. Enfin, je sais plus. Tiens d'ailleurs, s'il s'asseyait ou si c'était pour la vieille dame avec qui il vivait. Je me souviens plus de ce film.
Alors,
très drôle en tout cas, avec Brad Pitt en. Je vais faire un
c'est
AVC.
C'est pas Burn After.
Et en fait, Brad Pitt, il est moniteur, enfin coach dans un club de sport. Et donc, je me disais que oui, peut-être des attractions avec des vibros qu'on peut déclencher à des moments de palpitation.
C'est surtout que moi, je me souviens de fêtes foraines où il y avait des espèces de cabines de simulation où on pouvait vivre des expériences.
Oui,
bon,
il y en a
pourrait
une.
Faire un en bas de projection un peu avec... Voilà, d'autres types de simulations.
La simulation gangbang.
Oui.
Tout à fait, la simulation...
Est-ce qu'on aurait aussi... Allez-y, est-ce qu'on aurait ça aussi en termes de je sais pas, de mantra qui nous... Je sais pas.
Ben, je pense que j'aimerais bien être la dame qui fait l'annonce un peu et qui vend les tickets pour ça.
Et
ça
moi,
j'avoue.
Ouais. Et moi, je viens récupérer les tickets juste avant que ça commence.
Okay. Oui, ouais. Non, mais en fait, on pourrait croire que c'est... Les gens ont choisi dinosaures... Pas de chance, on a changé le programme au dernier moment, vous ne pouvez plus sortir de l'attraction. Et en fait, non, oui, c'est gangbang carabiné, quoi.
Ouais, oui.
Mais ça s'apparenterait peut-être à un viol, et c'est
finalement,
pas tellement
oui.
notre
oui.
ligne, donc on va pas le faire.
Non.
Mais on pourrait... Alors, aux pinces, il y a des petites bites en peluche.
Ah, oui,
voilà, bon, c'est vraiment... À côté des Pikachu, en plus, c'est quand même vachement
nickel.
Bien situé.
Ouais. Attrapez-les tous.
Voilà, c'est chouette, c'est sympa. Pour
non, on pourrait inventer, t'arrives avec ta bite et il faut éviter les pinces, tu vois. On pourrait faire l'inverse du truc.
Ah ouais, ouais, ça c'est pas mal.
Pourquoi pas?
Ouais, tout à fait. Et le train fantôme aussi, le train qui pourrait être le train de la jouissance, par exemple, le train
mal.
Bon jouir.
Avec des vrais intermittents dedans qui seraient là, non
oui.
pas pour te faire peur, mais pour te faire jouir.
Oui. Alors là...
On
là,
tiendrait pas un truc.
On tient un truc là. Le train bon jouir. Et ça serait vraiment magnifique.
Là.
Ouais, avec des petites projections vidéo à des moments, des sensations corporelles,
mais
des effleurements.
Oui, très chouette.
Bien sûr, avec le consentement, hein, parce que pour ce coup-ci,
évidemment.
Pas comme dans le train fantôme.
Majeur. Alors, s'il y a des intermittents et intermittentes qui nous écoutent, il vous manque un petit peu d'heures ou de nouvelles heures pour l'année qui suit,
oui.
nous avons un plan.
Oui.
Voilà, il faut être à l'aise avec son corps.
Oui.
Pas nécessairement parler plusieurs langues. La vôtre sera juste ce qu'il faut de suffisant.
Il faut donner de votre langue, ça
donner
c'est sûr.
Donner de votre langue. Et puis voilà, petite visite médicale dans les clous avant de postuler.
Bien sûr. Et puis de toute façon, du gel hydroalcoolique à l'entrée. Donc j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on risque. Voilà.
Proposition de costume acceptée. Sentez-vous libre. On va vous proposer une petite carte blanche au moment des auditions. Sentez-vous libre.
Oui, et puis si vous êtes scénographe, et ben on cherche aussi du monde pour pouvoir décorer les voiturettes.
Tout
parce
à fait.
Que, voilà, avec plutôt du tissu. Alors, évidemment, une ifugée, c'est toujours important, mais surtout qu'il se nettoie bien, parce qu'avec Chloé, on en a ras-le-bol hein, de nettoyer le
de
velours.
Passer là, ouais.
Hein, c'est vraiment pénible. Donc, un petit sky, peut-être, je ne sais pas, il faut réfléchir à un matériau qui ne garde pas la substance. Et voilà. Et puis, si vous avez des idées aussi, parce que vous êtes musicien, musicienne, artiste sonore, d'ambiance. Alors, l'ASMR, on oublie parce que c'est vraiment relou. Et avec le bruit qu'il y aura autour, parce qu'on ne va pas empêcher le monde de tourner pendant notre attraction quand même. Pensez plutôt à des choses un peu plus rentre-dedans, excusez-moi le mot.
Ouais, non, mais allez-y. Ouais.
Voilà.
N'ayons plus peur.
Non, donc voilà. Bah, écoutez, nous, en tout cas, notre business plan dit qu'on aimerait être en ordre de marche pour la foire de l'hiver de l'année prochaine.
Ok, rendez-vous en 2024.
Donc, voilà, à peu près autour
pour ce train jouissance.
Voilà.
Il faut lui trouver un nom quand même. Hein.
Oui, on va lui trouver un nom. La locomotive du plaisir. Non, c'est vraiment nul.
Ouais.
Je sais pas.
Mais moi, la vapeur, non, ça marche pas du tout.
Ça peut être le sous-titre. Mais moi, la vapeur. Voilà, mais on va trouver. Et si vous êtes fort en nom et que vous faites partie des gens dont c'est le métier qui nomme les nouveaux bâtiments qui sont construits, parce que c'est un métier de nommer des projets immobiliers. La Talente ou je sais pas quoi, Villa Palestine, enfin tout qu'est-ce que vous voulez. Eh bien, trouvez-nous le nom de ce train de la jouissance. C'est pas payé par contre pour vous. Vous faites assez de thunes avec l'immobilier. Voilà. Moi je pense qu'on va être bien hein, pour les transmusicales de l'année prochaine.
Ah oui.
On a un projet béton. À part ça, j'ai envie de dire, trêve de plaisanterie, on va maintenant, s'il vous plaît, parler un petit peu géographie. Comment ça se passe pour vous, Chloé, en termes de géographie ?
Plutôt mal. Nous ne sommes pas rencontrés durant mon cursus scolaire. J'ai fait des efforts. Je suis douée en cartes, parce qu'il s'agissait juste de colorier avec des couleurs. Mais allez-y, je suis prête à m'humilier sur la place publique.
Non. J'aurais vraiment trop... je m'en voudrais. On fait un petit coucou à Yannick de Metal Injection, juste comme ça, pour le plaisir de l'humiliation en place publique. Non, c'était pas ça la référence, mais il comprendra
Coucou Yannick.
Alors, si je vous dis Tlemcen,
oui,
T-L-E-M-C-E-N.
Ouais.
Est-ce que ça vous évoque...
Ça me fait penser à le nom d'une pommade anti-inflammatoire, mais j'imagine que ça...
Non, ça n'a rien à voir.
Non,
j'ai parlé géographie, j'ai pas dit médecine, biologie.
Tout à fait, mais je sais pas, la Suède, la...
Ah oui, vous êtes plutôt pays du Nord.
Oui, il fait un petit peu froid.
Tlemcen. Ah oui, c'est quand même carrément l'inverse.
Nickel.
Ouais, en fait, c'est même carrément un mot arabe même berbère, je crois. Enfin, ou alors il se dit pas de la même façon en arabe et en berbère, et je vous épargnerai ça. Donc Tlemcen, c'est d'ailleurs une commune maintenant qui est située au nord-ouest de l'Algérie. Mais c'est aussi et surtout dans l'esprit des Tlemceniens et Tlemceniennes, un royaume.
Okay.
Parce que Tlemcen était en fait le royaume de l'Algérie avant que l'Algérie soit l'Algérie, qui est devenue l'Algérie quand les Français sont arrivés en Algérie et qu'ils ont fait d'Alger la capitale de l'Algérie.
Okay.
Vous voyez, avant, Tlemcen, c'était le royaume algérien, on va l'appeler comme ça pour simplifier les choses. C'est une ville située à 520 km à l'ouest d'Alger. Vous voyez, 140 km au sud-ouest d'Oran. Et proche de la frontière du Maroc, à 76 km à l'est de la ville marocaine Oujda, 40 km de la Méditerranée. Donc c'est pas au bord de la mer. Okay. Et c'était donc la capitale en fait de ce qui est devenu ensuite l'Algérie. Donc ce royaume de Tlemcen avait un roi, une reine, plusieurs sans doute même d'ailleurs. Enfin, de toute façon, les reines, on s'en fout, puisque c'est un pays, pardon de dire ça, mais d'Afrique du Nord. Donc, les reines, c'était pas tellement la question.
Elles faisaient des princes. Donc elles avaient...
Voilà, elles étaient là. Voilà. Mais en tout cas, c'était un endroit, et quand on regarde, vous allez voir des photos de Tlemcen, c'est quand même magnifique. C'est un endroit qui évoque énormément de choses. Donc, je vais vous emmener, on part de cette fête foraine de Rennes, et là, il n'y a pas trop de transition, à Tlemcen. Mais avant, on va faire une escale dans le Luberon, dans un petit village de Provence.
Rien à voir.
En fait, vous
faites des intros pour finalement nous emmener dans un petit village paumé dans le fin fond
du Luberon. Laisse tomber, quoi. Vraiment, je vous fais. En fait, c'est pire que comment ça s'appelait ce jeu sur France 3 là, la piste. Non, c'était pas la piste.
La carte au trésor.
La carte au trésor, c'est pire que la carte au trésor.
Mais oui, tu sais, le big deal. Oui.
Oui. Okay. Donc, mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce petit village du Luberon, autour d'une table, une table avec un poulet au citron et un gratin dauphinois avec du romarin, j'éveille un petit peu vos papilles, une bonne bouteille de vin nature rouge et puis de bons convives. Et autour de cette table, il y avait un homme et une femme, ou plutôt une femme et un homme, qui viennent, qui sont issus de ce royaume de Tlemcen. Et la conversation avec quelques verres, et puis surtout la curiosité de savoir comment ça se passe pour ces gens qui maintenant sont quand même plus proches de la retraite que de leur première jeunesse. En tout cas, ils ne sont pas en train de découvrir leur sexualité, ils ont eu une vie affective, une vie amoureuse, des enfants, donc tout ça, ça a été coché, mais ils viennent de se marier.
Oh.
Et oui, très beau, on les félicite encore.
Oui.
Et donc, ils nous ont partagé ce que c'était que leur jeunesse et surtout le rapport à l'éducation sexuelle à Tlemcen. Donc,
okay.
Je vous propose que nous allions prendre place autour de cette table.
Allez.
Je vous sers un petit verre. Il n'y a pas de chardonnay, mais c'est pas grave.
Je veux bien un petit morceau de gratin aussi, s'il vous plaît.
Ouais, d'accord.
Ouais.
Ok, bon, bah, on y va.
Bonjour.
Sur Canal B.
De quoi?
Les amours cachés à travers les terrasses du Mzab.
Mais tu dis qu'ils vous passaient de main en main
Les femmes se passaient de main en main, l'homme qui atterrissait par là.
Ok, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, alors ça veut dire.
Comment, il n'y avait pas autant que ça d'hommes?
Non, mais qui était capable. Enfin, c'était quand même enfreindre des lois religieuses et puis de morale et tout ça. Donc est-ce qu'il y en avait.
On n'a jamais fait de sondage. Je pense
ouais,
que
tu sais pas.
La femme musulmane, la femme arabe, la femme, elle est aussi frivole que n'importe quelle femme occidentale.
Non, peut-être mon exemple. Moi, j'ai jamais eu le droit. Je me suis mariée, j'étais vierge. Je me suis pas.
Avant, t'étais vierge il y a 15 jours.
Quand j'avais. Et oui. Je me suis mariée à 20 ans. Il fallait que. Il fallait honorer la famille et l'éducation des parents, surtout.
Oui. Et tu as eu le jet de la abeille la nuit?
Non.
Ça,
il fallait. Bon, ça, c'est arrivé. Ça s'est arrêté à la génération de Théma et moi, je me rappelle de Fadela. Je me rappelle d'une cousine, j'étais jeune.
Mon oncle et tout ça.
Ma cousine s'est mariée en 64, 65. Mmh. Bon, je devais avoir 8-9 ans.
Ouais.
J'ai assisté à. Et ça m'a marqué. À la présentation d'une. C'est comme chez les gitans, la combinaison blanche, la chemise de nuit blanche tachée, pour prouver la virginité de la mariée, de la jeune fille.
Ouais.
Et ça m'avait marqué, j'étais jeune.
Il y a deux femmes spécialistes.
Je pensais qu'elle avait été blessée par.
Ben oui, par son mari.
Qu'elle avait été frappée. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Tais-toi, d'aide. Une grand-tante. Tais-toi, c'est pas des questions à poser.
Mais...
Tu sauras un jour.
Mais t'avais quel âge?
J'avais 8-9 ans.
Ah oui.
Ouais.
Mais un jour, on te l'a.
Et
dit,
non, moi, je me suis mariée, je savais rien. On n'a pas d'éducation sexuelle au lycée, il n'y avait rien.
Ouais.
On ne pose pas la question à nos mères, à nos tantes, c'est impossible. J'ai eu une cousine qui s'est mariée avant moi, elle avait peut-être un an ou deux avant mon mariage.
Ouais.
Et c'est là qu'elle m'a dit, bon, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu sais. Mais sur un ton un petit peu désinvolte, pas sérieux. Il fallait pas que ça soit sérieux.
Il fallait pas en parler, quoi.
Pas du tout. Et j'ai reproduit ça avec ma fille.
Ah oui, c'est vrai?
Ouais, j'ai reproduit ça avec ma fille.
Elle était bien avec ta fille?
Bah quand même.
Bah, je pose la question.
Je te réponds.
Ben, quand même.
Tu as vu comment je réagis?
Mais oui,
c'est instinctif. Hein,
c'est comme si ça te mettait toi en cause.
Elle m'a posé aucune question, mais je suis sûre qu'elle a. elle a compté, peut-être ma sœur Rachida l'a briefé un petit peu avant, et les amis. On compte sur les copines.
Il y a Google.
Sur,
Maintenant, il y a Google.
Peu, oui, c'est l'ère d'Internet. Donc,
parce qu'elle a quel âge, ta fille?
Elle a 39 ans.
Oui, donc...
Oui. Mais elle ne m'a posé aucune question. Aucune.
Et ton fils, il t'a posé des questions?
Pas du tout.
Les deux? Comment je fais, maman, la nuit de noces et tout?
Déjà, moi, à l'âge que j'ai...
Entre nous, on se pose la question. Entre mecs, on se pose la question.
C'est mon deuxième... À l'âge que j'ai, j'ai 67 ans, on s'est unis il y a 15 jours. Ma mère m'a téléphoné le lendemain. C'est moi qui ai téléphoné à maman. Et elle me dit, où tu es? Je lui dis, comment je suis? Je lui dis, maman...
Je suis mariée, je suis chez moi.
Hier, on s'est unis de manière religieuse, je suis... Bon, d'accord, je t'ai pas posé de questions. Allez, au revoir.
C'est comme si elle avait 20 ans.
C'était très gênant. Gênant pour moi et gênant pour elle. Ça s'est passé il y a 10 jours, quoi. C'est marrant, hein?
Ben oui, c'est drôle.
C'est marrant. Et mes enfants?
Ils m'ont pas appelé
les 2-3 premiers jours, ils ne m'ont pas appelé.
Parce qu'ils étaient gênés?
Gênés, et moi aussi gênée.
Ben c'est normal. Ils pensent que leur maman est en train de se faire
dépuceler
par un mec, un vieux satyre.
Oui, c'était la vie de mienne, c'est pas tout.
Ouais. C'est pas le père, c'est quelqu'un d'autre.
Oui, mais ça les a gênés.
Parce qu'on n'imagine jamais les parents dans un lit.
Ah ben non.
Jamais.
On n'a pas du tout envie de savoir.
On n'a pas envie de savoir.
Non. On aimerait bien savoir comment ça se passe, mais on ne veut pas que les parents nous racontent forcément eux-mêmes comment ça se passe, parce qu'après on les imagine faire ce qu'ils nous racontent, c'est hyper gênant ça.
On imagine et on n'accepte pas. Hein.
Ouais.
Non, de notre temps, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas.
Mais il y avait toujours une tante ou une vieille machin, un matron qui nous apprenait comment faire.
À vous les garçons, c'est ça la justice.
Ah, aux gars, on pouvait leur en parler.
Certainement.
On avait toujours une vieille tante ou une vieille matron qui nous appelait.
Mais nous, les filles, comment ça ne pouvait pas en parler, ça se faisait pas.
Mais j'ai une question, si les femmes qui arrivent au mariage,
vierges,
est-ce que l'homme arrive puceau?
Pas du tout.
Mais les hommes ont 20 ans aussi, et ils ont fait l'amour avant. Mais quoi, avec des vieilles dames?
Non, il y a les fameuses maisons closes. Il y en a.
Il y en a
partout.
Et puis entre hommes aussi, est-ce que c'est un fantasme d'occidentaux ou est-ce que c'est...
Ils font entre hommes beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Des petits garçons qui sont dépucelés par leur tante, leur machin, leur truc. Mm. Leur oncle.
Leur oncle.
Leur tante aussi.
Je comprends. Ils sont violés par la famille, quoi.
Les noms.
Oui, ça c'est un sujet. Il y a
énormément de pédophilie.
Ça existe. L'homosexualité. Elle existe, elle est très présente, les mais parents acceptent, mais il faut se marier.
Oui, interdit.
Alors que c'est interdit hein, par l'islam.
Ah oui, il faut avoir une couverture officielle.
Il faut avoir une couverture. On en connaît plein. Il y avait des amis à mon père. Ma mère me disait, celui-là, son copain, c'était un tel. Je lui dis, mais maman, il a des enfants. Il a une femme qu'on connaît, qui vient chez nous. Et oui, c'est comme ça.
Donc il se marie avec une femme pour légaliser son...
Non, ça c'est pour le candidaton. Il est marié, il a une vie de famille.
Donc il est
mais
pas
les samedis après-midi, et ces terrasses-là qui servaient justement de télé, on va dire ça, entre guillemets, elles allaient et elles voyaient ces hommes transformés en femmes qui se mettaient en blousin.
C'est vrai?
Oui, on m'a raconté ça.
Attends, ça je ne sais pas encore. Oui. Donc des gens qui
des hommes qui très respectables, des notables. Moi je prends l'exemple
qui
de Kelsen.
Qui se transformaient en...
En femme, le samedi après-midi, avec Hera, c'est tout ça.
Murs, Clemson est à 700 mètres sur l'Atlas, et la mer est à 60 km devant. 30-60 km, ça dépend par où tu passes.
Okay.
Et il y avait deux ports à Clemson, deux ports assez importants, qui étaient des ports commerçants. Il y avait Onai et Rajgul. Ouais. Deux ports très importants.
Quand on dit royaume, moi ça me fait un peu rêver comme des mille et une nuits. Quand tu dis royaume, il y avait un roi.
Les maisons sont comme ça.
Il y avait un roi,
bien sûr.
Il y avait le roi.
Une dynastie. Des dynasties.
Et il y avait aussi le royaume d'Oran, le royaume d'Alger,
le royaume de Tlemcen.
Non.
Et il y avait le royaume de Fès, le royaume de Bougie. Bougie, c'est une ville au milieu de la Kabylie.
Pijaya.
Et puis il y avait Constantine, qui était aussi un royaume depuis l'époque des Romains.
C'est la colonisation qui a façonné l'Algérie actuelle.
Qui a même donné le nom de l'Algérie à l'Algérie.
Il y avait la communauté musulmane, bien sûr.
Et comme ici, donc, tu avais le mariage religieux, normal, comme si tu allais à l'église, mais tu allais à la mosquée, bien que c'est la mosquée qui se déplace chez toi pour te marier. Et il y avait le mariage civil, qui était la mairie, etc. Il y avait aussi le mariage civil sous le protectorat turc, parce que Tlemcen a été un produit du protectorat turc. Il y avait le mariage civil, le mariage du beylik, c'était un bey, sous l'autorité du bey qui en faisait les mariages, qu'on faisait c'est tout le civil, toute l'administration. On n'appelait pas l'administration, comme à l'époque française, c'est l'administration. On disait, l'administration, c'est le beylik.
Le beylik, oui.
Le beylik.
Et
la durée, à l'époque de la Reconquista, donc à la fin du 14e, du 15e siècle, en 1490, c'est le 15e siècle, les Espagnols, quand ils sont venus, les Arabes locaux, ou les Berbères, le royaume de Tlemcen, par exemple, a appelé les Turcs pour se protéger des Espagnols. Les frères Barberousse, dont vous entendez parler. Barberousse. Donc, c'est les frères Barberousse qui sont venus. Ils sont venus à Tlemcen, ils sont venus à Alger, ils sont venus à Bougie pour se défendre. À Oran, beaucoup.
À Oran aussi, il y a beaucoup.
Et depuis cette période-là, donc depuis le 16e siècle, il y avait un protectorat turc. Une colonisation turque, tout simplement. Ils ont une dénomination spéciale. Donc, ces conquérants, qui étaient tous des hommes, ils ont eu la permission d'épouser des locales. Et on en a fait des enfants. Ces enfants s'appellent des kulugli. En turc, ça veut dire des kulugli, ça veut dire quoi? Des bâtards
des
ou des
bâtards.
Des mixtes, quoi.
C'est le très joli kulugli.
Est un kulugli typique.
Moi non.
Parce que elle est une arabe pure.
Moi je suis chérifienne. C'est-à-dire
une arabe
que
pure.
Mes deux parents sont descendants du prophète.
Lui, il dit ça avec des étoiles dans les yeux. Hein. Je te dis, tiens,
lui et sa mère, ma tante.
Toi t'es un bâtard. Hein.
Non, je suis aussi descendant, je suis Kulugli d'un côté, ouais. Et descendant du prophète de l'autre,
pas
du côté
tante,
de ma mère.
Parce que sa mère, c'est ma tante. Ouais. Et on a le droit de se marier entre cousins, chose qui choque certains.
Ok, mais nous aussi d'ailleurs en France, on a le droit de se marier entre cousins.
Il faut l'autorisation du pape.
Ouais, il faut...
L'autorisation du pape.
Ouais, de l'église.
Alors,
moi,
avec
si vous m'excusez,
on a le droit de se marier du coup.
On a le droit de se marier avec tous les cousins.
Paternel et maternel.
Ah oui,
on n'a pas le droit de se marier.
De toute façon,
avec
notre premier fleur, c'est avec la cousine. C'est les seuls qu'on peut rencontrer.
Ça,
les ouais, autres,
ça,
on ne peut pas les rencontrer.
Mon père avait toujours très peur quand on se rencontrait parce qu'il disait toujours à ma mère, c'est avec les cousines qu'on apprend.
Allez. Et puis, quand on était en réunion, on dormait ensemble en plus.
Oui.
Tous dans les mêmes chambres.
Moi, je me rappelle du mariage de son frère aîné. Mon premier slow, c'était avec lui.
C'est vrai?
Oui. Mais il y avait des bulldogs. Il y avait ma tante par là, il y avait ma mère par là.
Ne te rapproche pas trop. Et moi, là, tu étais trop serré.
Et moi, j'avais peur. C'est vrai qu'on a peur.
Mais
parce que
quand on
ne nous éduque pas. Et pourtant, j'ai reçu une éducation très moderne.
Ah oui?
J'ai fréquenté le lycée français. Oui. J'avais des copains. Et avec tout ça, il ne fallait pas transiger.
Tu faisais des surprise parties. Tu allais au surpatte.
J'allais au bout, oui, mais je mentais.
Ouais.
Je mentais à papa et à
maman. Aussi,
j'avais.
Non, jamais.
La boue.
Mais c'est normal, la boue. C'est normal chez vous, chez nous, c'était pas.
Quand on est dans un pays, justement, tu dis où les règles sont quand même coraniques et très strictes.
Et ben,
qu'est-ce qui est moderne?
Moderne. C'est-à-dire qu'on pouvait en toute.
On pouvait danser un slow sans trop de problèmes. C'était accepté.
Non, j'allais.
Ça, c'était moderne.
C'était un lycée mixte.
Oui. Ah oui,
on avait des copains. Moi, j'ai des copains. J'ai des copains de lycée.
Qu'elle habitait à la maison, etc.
Oui, parce que c'était le protectorat français.
Oui,
donc
c'était voilà, une colonie, un peu un protectorat.
Département français. C'est département, tu peux le dire. Département français.
On faisait pas de problème.
On était là.
Ma première entrée, c'était en 62. J'avais 6 ans. CP, c'était l'Algérie indépendante.
Ah, tu es rentrée en 62. Tu as fait ton CP en Algérie?
Oui.
Parce qu'elle est née au Maroc.
Quand je suis née au Maroc.
Et elle a grandi au Maroc.
Ok.
Pendant les événements,
CP,
une bonne partie d'Algériens ont été réfugiés au Maroc et en Tunisie.
Okay.
Comme maintenant, certains Palestiniens sont réfugiés quelque part.
Mes parents ont habité Lyon.
Ouais.
Et après, un beau matin,
au Liban.
Son patron lui a dit de ne plus fréquenter le... Parce qu'il était médecin à l'hôpital, comment il s'appelle?
Édouard Herriot.
Édouard Herriot.
Mm-hmm.
Il dit, mieux ne pas venir, tu es recherché par la police française, il faut partir.
Et par le FLN.
Et pourquoi?
Non, le FLN, parce qu'il s'est engagé. Parce qu'il était...
Ah, il était engagé.
Il était engagé, il était comment dire, activiste. Il a fait partie de la grève des étudiants de 56 et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au Maroc.
En 58, c'est pour ça que tu parles de grève, la grève la plus importante, c'était en 58, quand le FLN a demandé à tous les travailleurs...
La grève générale.
Tous les travailleurs algériens en France de ne plus aller au boulot. Et à cause de ça, la France a perdu la Coupe du Monde de football de 58. Il y avait 6 internationaux algériens qui étaient les meilleurs, dont M. Merkloufi. Il était le Pelé algérien. Il avait le même âge que Pelé. Et il a joué à Saint-Étienne jusqu'en 72-73.
C'est vrai. Et quand on est rentré, bon, c'était encore l'école française. Et en 6e, quand j'ai eu mon examen de 6e, je suis allée directement, enfin, sans poser de questions, au lycée Pasteur.
Le lycée français d'Oran. Okay. Donc il y avait... Quand la France est partie d'Algérie, il restait 3 lycées français, dont un lycée franco-musulman. Celui de Constantine était franco-musulman.
D'accord,
donc c'est-à-dire bilingue, arabe et français. Et quand c'est un lycée franco-musulman, ça formait 2 gens, 2 littéraires, 2 biculturels.
Oui. Et est-ce que les événements de 68 en France... C'est arrivé en Algérie.
Pendant les événements de 68, on faisait des surpas tous les jours. On était en grève.
Moi, j'étais en France, j'étais à Lyon.
Parce que
mon père avait obtenu une année sabbatique.
Okay.
On était en
grève. Il a réintégré l'hôpital et nous, on l'avait rejoint pendant les vacances.
D'accord.
Et en mai, il avait téléphoné à moi, il a dit, tu ne viens pas, ça barre de tous les côtés, c'est moi qui vais rentrer. Okay. Bon, ben voilà l'éducation moderne, c'est-à-dire que... Mais on savait... qu'il y avait des lois qu'il ne fallait pas transgresser, c'est-à-dire avoir une relation avec un homme, avec un garçon de notre âge.
Enfin,
il ne fallait pas du tout, là.
Les mecs aussi, hein. On savait qu'il ne fallait pas.
On savait que même si on flirte ou des... Non.
Quand on flirtait, on disait, on se fait un coup de pinceau.
Et encore.
Tu sais pas ce que c'est ?
Non, c'est quoi un coup de pinceau ?
Un pinceau.
Ah oui, d'accord. Je vois le mouvement du bras, du bas vers le haut, quoi.
Voilà.
Un coup de pinceau. Ouais. Ok.
Moi, j'ai jamais fait. Je vais te dire pourquoi.
Je ne pas l'expliquer comme
on
ça.
On nous a toujours mis en garde,
et
nous les filles.
On...
Voilà. Que ce fameux coup de pinceau. Enfin,
le dégénère.
Non, quand on tombe enceinte, c'était notre. Mais alors, notre bête noire tombée enceinte. On a eu une copine qui a été comme ça, qui a fréquenté un garçon et s'est allé très loin. Elle est partie, c'était à Oran. Hein.
Elle est partie. Elle a dû partir cachée.
Elle s'est mariée avec un Marocain.
Okay.
Tu caches et tout.
Ouais.
Elle pas mariée avec un Algérien.
Notre façon de faire
foutue.
L'amour quand on était jeune, c'était la sodomie.
Mais c'est ce que j'allais demander. Mais
On était très sodomiaque, ou je ne sais pas ce qu'on peut dire ça. Ou...
Sodomiste. Ah oui, mais au moins, il n'y avait pas de risque.
Ouais.
Ouais.
Tu sais comment on reconnaît une sodomiste bretonne ?
Non.
Elle a du beurre doux dans son frigo.
J'avais une copine comme ça quand j'étais en cours de...
Moi, c'était la crème arasée d'un frigo.
En formation, parce que j'ai fait une formation en langue. Et elle était fiancée. Et à chaque fois, elle venait, elle nous racontait justement. Elle nous disait, moi aussi, j'étais fiancée. Mais j'étais très sage. Elle, non, pas du tout avec son fiancé. Mais elle m'a dit, tu sais, moi, je suis très, très prudente. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose. Un accident, qu'il parte, qu'il meure. Et moi, je me retrouve... sans rien.
Ouais.
Et ben elle faisait ça, elle pratiquait la sodomie. Moi, je me disais, c'est pas possible. Et d'une manière où j'étais con, je lui dis,
il y avait même une espèce de proverbe qui est figé. Ah, l'avant c'est pour mon mari et l'arrière c'est pour les amis.
C'est bon ça.
C'est sûr, hein. Pour les amis.
Pour les amis, oui.
Et cette fameuse ville de Tlemcen, qui est très jalouse de ses traditions, Irpute sortait de Tlemcen. Elle venait passer le week-end quand nous, on était au lycée.
Ouais.
C'était encore l'époque du samedi-dimanche. Elle sortait du lycée samedi à midi. Ceux qui habitaient au rang allaient en voiture les chercher, venaient passer l'après-midi, une boum, je ne sais pas moi, une promenade, une balade quelque part au bord de l'eau, à la corniche. Et elle rentrait... le samedi soir, chez elle, ni
comme
bu
si
ni
connu. Comme si de rien n'était.
Ouais, comme si de rien n'était.
Le grand drame de ces frustrés musulmans, c'est qu'ils ne font pas l'amour. Ils ne baisse pas. Mmh. Donc ils sont frustrés et ça se répercute sur autre chose. Ça se répercute sur l'islamisme.
Mmh. Et donc, nous, les femmes aussi, on est frustrés.
Dire, si pas
et pourtant, on fréquente, tu sais, la nudité, moi, voilà. J'ai pas de...
Avec la clash.
Avec les femmes, hein. Pas
des,
avec...
C'est des frustrés à mort.
Mes compagnons.
Pas que chez
je
les Arabes.
Je ne m'avais pas nu.
Je te parle de tous les musulmans.
Mais on quand même le
tu vas, on a en Pakistan.
Oui. Ouais. Et le hammam, c'est un lieu... Pour moi, c'est un lieu libéré. On est nu.
On
n'a
pas de sexe du tout.
On se lève, on se met debout pour nous rincer. On va chercher nos serviettes. On est obligé de traverser la chambre chaude. Donc, c'est immense, c'est une salle. On n'a pas de soucis avec ça. On a des soucis. Je me rappelle que maman me disait, il ne faut jamais se mettre nu devant son compagnon. Ça ne se fait pas.
Ah bon ?
Toujours avec une combinaison, une chemise de nuit.
Ah oui.
Ah, moi, je peux témoigner jusqu'à présent. Pour la dénudée, c'est un problème. Oh là là. Ne me frappe pas. Je me suis dit, tu mets tes chemises de nuit débondeuses.
Non, j'ai de belles chemises de nuit. Ouais. Très bien coupées, très belles. Mais lui, il n'aime pas.
Ah, pourquoi ?
À son chasse.
Ah, la meilleure chemise de nuit, c'est...
Ah non, c'est beau, le tissu... Ouais,
j'en ai une qui est très belle. Ça lui convient pas, mais je m'en fous, je la mets quand même. Tu sais que le prophète, il aimait bien l'amour.
Il n'est pas aimé bien, il adorait.
Mais oui, mais alors pourquoi c'est devenu un problème tout ça ?
Il aime le beau, il aime l'amour. Qu'est-ce qu'il aime encore ? Il aimait les femmes. Il n'aimait pas l'adultère, donc il se marie à chaque fois qu'une femme lui plaisait, il se marie avec elle. Pour les protéger d'abord. Alors, oui, alors la question
est-ce qu'elle s'enlève cette combinaison à un moment quand même ou pas ?
Oui, après quand les lumières sont éteintes et qu'il fait nuit noire, après on se laisse aller, quoi. Il y a une certaine intimité qui se crée, forcément. C'est, pour moi, je dissocie hein, le tout. L'instant T, pour moi.
Ouais.
Il est différent de ce que je vis dans la journée, le matin ou l'après-midi, ou maintenant. Ou... Mmh. Il m'appartient.
Ouais, ouais, je comprends.
Donc je me laisse aller. Mais il ne voit rien. Il touche, mais il ne voit rien.
En même temps, ça fait travailler.
Mais j'ai des lunettes.
Le
fantasme. Des lunettes. Infrarouge.
Ouais, c'est ça.
Moi, je vous remercie beaucoup.
Oh ben...
ouais.
C'est sympa.
Mais ne vous en faites pas, elles sont aussi sexy, même beaucoup plus. Pour moi, mon expérience, c'est mon premier mariage. La plus sexy, c'est la femme, je ne dirais pas arabe, je dirais maghrébine. C'est la... ça vous l'envoie.
Parce que, justement, parce que c'est pas open bar.
Ah, peut-être pour ça, ouais. Mais alors...
Pourquoi ? Pardon ?
C'est pas open bar, c'est-à-dire vous ne faites pas ça à droite à gauche. Vous faites ça que sérieusement, elles sont sexy, elles s'occupent de leur homme, elles s'occupent de elles font l'amour, c'est affolant. Toi, calme-toi, hein. Je dis ça à l'autre homme qui est à côté de moi. C'était, si on peut dire ça, les meilleurs coups de ma vie, c'était avec les petits arabes, les petites maghrébines. Hein. C'était le plus bel.
Merci pour moi.
Bonjour.
Sur Canal B. Bon, alors nous voici de retour à Rennes. C'est fini ce repas.
C'est fini le romarin.
Oui, fini. Il est temps de poser votre fourchette, Chloé. Bon, en tout cas, je voulais remercier encore ces deux personnes, ces deux voix, on va les appeler comme ça, qui nous ont accompagnés ce soir parce que c'est pas forcément simple de pouvoir partager la façon dont on a été éduqué de façon aussi intime. Et puis, en sachant que ça reste quand même des sujets pas forcément très simples à aborder quand il s'agit de religion, et notamment quand on est musulman pratiquant et tout ça. Mais on a vu qu'en même temps, on a des clichés, bien sûr, nous, en bons occidentaux que nous sommes. Et voilà, je trouve que c'est toujours très riche de pouvoir rencontrer d'autres façons de voir les choses et de sortir un peu de son petit nid de...
Son petit carcan.
Voilà, c'est ça, merci. Donc un énorme merci pour avoir partagé tout ça avec nous, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Il est maintenant temps de laisser la place à la librairie Foutraque de Benjamin Bechler. Benjamin Bechler, eh bien, on le salue. On lui suce le bout du gland, mais avec un masque, parce qu'en fait, Benjamin Belchler a le Covid. Voilà. Donc, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on pense bien à lui dans le fond de son lit, dans les fondements d'ailleurs. C'est quelqu'un des fondements, Benjamin Belchler. Voilà. Donc, bref, en tout cas, il continue à explorer la lecture de Mange-moi d'Agnès de Sarthe, publiée au Point. À vous, Benjamin. Oh.
Je m'appelle Vincent. Je m'appelle Myriam. Je déchire l'emballage de papier craft. Je n'ai pas de vase, déplorais-je en contemplant les fleurs. Oreilles d'ours torves, œillets aux pétales brunis, gypsophiles dont les boutons se détachent si facilement qu'ils couvrent en un clin d'œil ma paillasse d'un joli tapis neigeux. Il y a aussi deux grandes tiges de je ne sais quelle plante, sans doute exotique, qui se termine par un toupet de moquette écarlate et plissé qui, bien malgré moi, m'évoque vous savez quoi. « Quelle tuile !» s'exclame-t-il, au lieu de courir dans sa remise pour m'offrir ses pots ébréchés, ses soliflores passées de mode, ses seaux rouillés, que sais-je, les récipients multiples qui encombrent sans doute son arrière-boutique et qu'il conserve pour une raison mystérieuse. Je sacrifie deux carafes et trois verres. Le café est prêt. L'ambiance florale est trop exubérante à mon goût, et les bouquets dégagent un parfum de jardin fatigué qui exerce un puissant pouvoir sur mes nerfs sensibles. « Comment marchent les affaires ?» demande Vincent en trempant ses lèvres pâles dans son café serré. Je réfléchis un instant, c'est mon 11e jour d'ouverture. J'ai 300 euros de recettes et 4000 de déficit, sans compter les divers emprunts en cours. Bien, dis-je en souriant. Très bien, même. C'est curieux, ça marche au-delà de mes espérances. Avant, j'avais un salon de thé dans le 7e arrondissement. C'était trop fatigant, mais qu'est-ce qu'on a fait comme argent ? Je m'évante avec la main, comme si cette fortune passée, aussi bien que fictive, me donnait chaud. « Dans le 7e ?» fait Vincent admiratif. « Pourvu qu'il ne me demande pas le nom de la rue. »« Oui, vers Invalides. Oh, »« Quel risque tout je suis !»« Je n'aime pas trop ce coin, » dit-il d'une voix boudeuse. Je me souviens qu'il a sa réputation d'homme tatillon à maintenir. Oh, vous avez raison, la clientèle était exécrable. Ici, c'est beaucoup plus... Je cherche mes mots car ma clientèle est si clairsemée que j'aurais bien du mal à la définir. Plus familiale, affirme-t-il. Voilà. Et soudain, une idée géniale germe dans mon esprit, mais je la laisse s'échapper. Je n'ai pas le temps de m'en occuper tout de suite. Elle n'aura qu'à repasser plus tard. C'est mon 11e jour d'ouverture et ça ne va pas du tout. Les restes s'amoncellent dans le réfrigérateur. Je jette des tranches de macreuse, je balance des poireaux, je sacrifie des tomates. À chaque fois que je me penche sur la poubelle, ma conscience se zèbre sous le fouet de la culpabilité. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde et ce quelqu'un n'est pas content. Il se pourrait que cette présence menaçante ne soit autre que mon ombre. Comme on s'effraie alors que l'on traverse son appartement vide la nuit venue du reflet d'un blanc d'œil dans un miroir latéral. C'est notre visage qui s'est découpé dans la glace, mais le temps qu'on s'en rende compte, on a déjà les sangs glacés. Il se peut que le regard scrutateur qui pèse sur moi ne soit autre que le mien. Il se peut que le tribunal au sein duquel se déroule mon procès soit celui de ma conscience, ma pauvre conscience fouettée. Mais soudain, face à Vincent qui recycle ses fleurs pourries en me les offrant, je suis traversé par une deuxième idée géniale. « Cet homme fait beaucoup pour moi, me dis-je. Il m'inspire, il est ma muse, mais comme c'est un garçon, je l'appelle secrètement mon museau. » Je sens que Vincent a envie de me poser une question sur ma vie privée. Il adorerait savoir, par exemple, si je suis marié. Les femmes seules ne le mettent pas particulièrement à l'aise, c'est normal, c'est mauvais pour son commerce. « Et vous avez tout réinvesti dans votre... Pourquoi donc peine-t-il tant à appeler chez moi un restaurant ?»« Si les gens n'arrivent pas à identifier qu'il s'agit d'un lieu où l'on mange, où l'on paye pour avoir de la nourriture, ça ne décollera jamais. Il est vrai que je n'ai pas d'enseigne. Il est vrai qu'il n'y a pas écrit « restaurant » sur la devanture, ni « café-bar », ni « brasserie ». Il n'y a même pas écrit chez moi. Je n'ai pas eu le temps, ni l'échelle, ni la peinture. Mais j'ai une vitrine avec un menu écrit sur une ardoise Et juste derrière, des tables, des chaises, une banquette en bleskine avec tout au fond les feux nickelés de mon percolateur. « Merde !» me dis-je. « C'est ça ? C'est aussi bête que ça, les gens n'ont pas compris que j'avais ouvert un restaurant. » « Ah, Vincent, Vincent, tu m'aides d'un tel secours. Dans mon restaurant, vous voulez dire ?»« Oui, enfin dans votre affaire, quoi. » »« Non, tout l'argent de la vente du salon de thé, je l'ai placé en bourse. Pour acheter ce fonds, j'ai préféré faire un emprunt, lui dis-je, histoire de l'impressionner. » »« Malin, » fait-il à mi-voix en ébauchant un clin d'œil. « Je commence à m'attacher à ma nouvelle personnalité. C'est un des soucis de l'adaptabilité. » N'importe quelle structure fait l'affaire. Je ne me sens pas à l'étroit dans les escarpins d'une businesswoman. J'ai soudain envie de lui parler de ma famille, la famille qui reste si bien avec ma nouvelle personnalité. J'aurai un mari avocat, 5 enfants. Oui, il se trouve que nous sommes catholiques, modernes, certes, mais nous tenons à certaines valeurs. Ce serait tiré par les cheveux à cause de mon tablier troué et de mon pantalon de velours élimé en bas. Et puis à cause de ma tête aussi, qui, je le sais, est davantage celle d'une squaw qui en a vu, ou d'une Romanichelle en mission d'infiltration que celle d'une Marie-Joseph de concours. Souplesse et mythomanie ne font pas bon ménage, contrairement à ce qu'on serait tenté de penser. Le plaisir du mythomane ne réside pas seulement dans la joie de flouer son interlocuteur. Il prend aussi sa source dans l'étonnement que le pipoteur éprouve à croire à ses propres affabulations. En moi, point de surprise, être ci, être ça, mais complètement indifférent.
Sur Canal B. Oh, mais dites-moi, qui voilà ?
Mais alors ?
Oh, 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 petit ours brun, c'était quoi déjà ?
Tape, tape dans tes mains, petit ours brun.
Mais il n'y avait pas Oh, qui voilà ?
C'est Inspecteur Gadget. Moi, non.
Ah, ben oui. Ah, mais qui voilà ?
Inspecteur Gadget.
Eh ouais. Bon ben non, alors ça marche pas. En tout cas, ça fait longtemps quand vous n'avez pas vu Chloé.
J'aime bien votre lancement avec Inspecteur Gadget et Petit Ours Brun. J'aime beaucoup. Je suis pas du tout considérée comme la petite de cette équipe, quoi.
Non, 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 pas du tout. Mais tout d'un coup, en disant « Oh mais qui voilà », j'ai eu une sorte de flashback de l'enfance, une réminiscence.
Vous
ça s'appelle.
Voulez un cacolac ?
Ouais, j'étais quand même pas si vieille que ça, hein, merci. Alors bon, c'est le moment d'au bord des lèvres. J'ai envie de dire, au lieu de dire des bêtises sur moi, on vous écoute, Chloé.
Oui, Agathe, vous m'avez donné le... Ah non, Agathe, vous m'avez pas donné de mot hein, cette semaine. Allez hop, démerde-toi, Chloé. Oups. On t'enlève les petits trous, va sur le parking du Super. Oui, roule, roule, petit bolide. Mais moi, je sais pas comment on fait sans les mots. Ce qui nous échappe, ce qu'Agathe ou d'autres ne nous donnent pas, ne nous donnent plus, ce qu'on aimerait dire mais qui reste blotti, frileux ou interdit, ceux qui sont tout à coup inappropriés, soudain, vides, vains, trop petits, trop grands, ceux que l'on ne trouve pas. Alors pour Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIe siècle, oui Agathe, hein, c'est de votre faute, on risque de se faire un petit peu chier, je vous préviens, mais moi quand les mots me manquent, j'ouvre soit un livre de philo, soit une bouteille de Chardot. Ouais, alors, d'accord. On ouvre son cahier, selon Thomas Hobbes, vous notez, les mots ont pour fonction de servir de repère afin que nous puissions nous rappeler nos propres pensées. C'est pas déconnant.
Ouais.
Alors Descartes, lui, il insiste sur le fait qu'un homme, même le plus stupide, dit-il, même Pascal Praud, hein, rajoute-t-il, ne se passe de l'usage du langage. Femme, homme, même Pascal Praud, insiste-t-il, hein, exprime par le langage des pensées. Est-ce une bonne nouvelle ? Nous ne sommes pas ici pour en juger. Alors, les mots comme repère, très bien. Les mots comme expression de nos pensées, très très bien bien. On continue parce que moi, j'ai pas trouvé ce que je veux là avec René et Thomas. Moi, ce qui m'intéresse dès mon intro, c'est ce qui réside dans le confus. Quand il y a un petit bazar entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et que Marie Kondo n'est pas là pour tout trier, ranger, plier, rouler par couleur, là, toutes ces pensées et mots qui foisonnent sans un canal distinct de communication, voire de cohérence. Hein. Ah, on me dit dans l'oreillette, oui, parce que j'ai pas dit que je l'avais pas ouverte entre-temps, la bouteille de Chardot, qu'Henri Bergson avait griffonné de la page à ce sujet. Il s'est interrogé sur cette inadéquation possible entre les mots et la pensée qu'il devrait pouvoir exprimer. Selon lui, le langage ne permet pas toujours de rendre compte de toutes les nuances des états de conscience. Alors moi, là, je comprends qu'il est reconnu que nous puissions penser quelque chose, ne pas même savoir ce que l'on pense, sans que nous soyons pour autant privés de nos paroles.
Bon, je sens que j'en ai perdu quelques-uns. Non, restez avec moi. Parce que c'est assez fascinant, ce processus. Non, penser ce qu'on dit, dire ce qu'on pense. Tout ça, le rôle des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau qu'elle dit quand même. Alors, c'est donc possible, mince, ne plus croire aux mots de l'autre. Et elle n'est pas la seule. Il avait les mots, m'a rendu accro. Se désespère Sherif Alouna dans un commissariat de police en 2007 et que je m'identifie tellement à ce qu'elle ressent en griffonnant le nom de Julien Bigin dans mon agenda Buffy contre les vampires. D'ailleurs, je rebondis avec les super pouvoirs. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Carrément, Christophe, lui, il voit de la couleur et puis il peut parler rien qu'avec son regard. On n'en parle pas hein, de ça en philo. Quatre mots sur un piano que madame a laissé à Patrick Fiori. Mais quels sont-ils les mots qu'on peut laisser? Si décisifs, mais la puissance. Ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, mais qu'il porte bien son nom, Michel l'immense le grand. Des mots qui résonnent pour Jennifer, à quelques mots d'amour pour Michel Berger. Bon. Alors là, il y a une petite question, hein. Une seule d'ailleurs, néanmoins importante, qui est en train de me cogner sévère. Où va cette chronique? Je n'en sais strictement rien. Alors décontenancé comme un petit oiseau sans plume, moi, démuni d'un mot d'Agathe, je sais pas, j'ai voulu écrire, réfléchir sur toutes ces situations où l'on prend conscience du pouvoir des mots. Soit quand ils nous manquent, soit quand ils nous attrapent, nous percutent, nous caressent. Et je suis partie pour vous laisser comme ça, en plus on dirait bien, ah avec une petite chronique sans trop de queue, aucun cul, ni plus du tout de tête. Hein. Que ce soit, je sais pas, l'actualité qui nous laisse sans voix, ou des situations émotionnelles que nous traversons, où tout à coup les mots futs s'envolent, tout à coup, bah, ils sont des clés. Partout, tout le temps, ailleurs. Lisez, écoutez, avec ou sans chardonnay, hein, les philosophes, les penseuses, les artistes, parce qu'ils et elles les ont généralement pour et avec nous. Ces mots qui rendent peut-être un petit peu tout moins flou.
Ah, bravo, alors on ne peut pas vous laisser comme ça trop de liberté à vous, Chloé. Hein.
Non, ça part en truc un peu relou.
Bon, et bien ce ne sera pas pour ce soir le E au bord des lèvres très cul.
Non.
Mais vous nous laissez avec quand même une pensée effectivement très intéressante, une forme d'introspection aussi, de savoir quels mots, peut-être en vous écoutant, je pensais ça, quels sont les mots que nous utilisons le plus, nous, chacune et chacun? Quels sont les mots qui ont nos préférences? Et vers quels mots on se tourne quand on n'en a plus? Ou quand on ne sait plus trop parler. Enfin, je ne sais pas, je me disais, il y a un truc intéressant aussi là-dedans.
Bah, je ne fais pas des choses... Enfin, vous voyez, oui, j'essaye d'ouvrir des réflexions.
Non, mais je vous remercie parce que Bon Jouir, c'est aussi un endroit d'ouverture. Alors, on pourrait imaginer que l'ouverture reste assez physique. Mais en fait...
Mais le langage aussi dans le sexe est si important et stimulant. Enfin,
bien sûr. Le mot, finalement, est aussi ce qui nous rattache parfois sexuellement à l'autre, qui nous rattrape au niveau du désir aussi.
Ouais.
Hein, on voit bien, enfin, on a tous et toutes connu ça, cette période où on n'est pas très dans l'histoire, quoi. Donc oui, ok, on baise un peu. Bon, c'est pas foufou, on y est sans y être vraiment. Et puis tout d'un coup, un mot et hop,
ça y est. Et on est pécho.
Ouais.
Oui.
Ouais. Voilà, ben merci.
Bonjour.
Sur Canal B.
Bon, eh bien, l'heure quand même commence à nous pousser vers la sortie. Et c'est bien dommage. Alors, il nous restera très peu de temps parce qu'en fait, on se retrouve le 24 décembre. Donc, c'est dimanche prochain à 23h. Je pense que c'est là où on va faire notre pic d'audience. Ne nous voilons pas la face. Je pense que ce sera
évident.
Qu'est-ce que vous faites, vous, le 24 décembre à 23h, Chloé?
Bah, c'est le moment du trou normand, donc il faut nous écouter à ce moment-là.
Ah ben voilà, c'est vrai que ça peut être un moment de pause digestive.
Ben c'est ça, avant la bûche.
J'ai toujours peur quand vous commencez un mot par « bœuf ».
Avant la bûche.
Oui, oui, mais j'ai cru que ça allait être le trou normand avant la bite. Et là, je me disais, waouh, les Normands, ils envoient...
Mais vous surlignez, c'est tout ce que je dis en disant trou normand. J'ai pas dit, on a le fromage, j'en ai fait un peu exprès. Mais vous surlignez, mes vannes.
En fait, j'adore les stabilos et j'aime bien les couleurs pastel. Ils en ont sorti des super beaux en couleur pastel.
Oui.
Bon, oui, je suis un peu gros sabot, je sais, mais ça, c'est mes origines de Seine-et-Marne. Je suis meulnaise, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis de la Brie,
avec
du fromage qui coule. Et évidemment que c'est toujours trop. Mmh. C'est toujours trop. Donc, le 24, trou normand. Donc, je pense que c'est à peu près à ce moment-là que les gens vont vraiment se dire, on va mettre Bon Jouir, parce qu'en plus, ça lancera des sujets... que peut-être ça va être intéressant.
Pour ouvrir l'esprit un peu des plus vieux réacs qui seront à la table. Voilà, les fêtes ne sont pas toujours synonymes de fêtes. Et vous pouvez vous retrouver à être comme censuré
au moment d'un repas, quand ça évoque tel ou tel sujet,
oui.
Et ben, mettez bon jouir et ça va détendre tout le monde.
Voilà, bah, c'était une recommandation que j'espérais plus chaleureuse. Là, c'est presque un ordre, mais... mais bon, c'est tant
pis. On verra les courbes d'audience. Hein. On aura les noms.
On aura tous
on
les noms.
On saura.
Ben oui, alors donc, mais avant d'arriver au 24, il y a le 23, le 22, le 21, le tout ça. Et où est-ce que vous en êtes de votre préparation des fêtes, Chloé ?
Voilà, je pense que vous avez ma réponse.
J'essaye
de ne plus préparer ça, finalement.
Oui, d'accord. Très bien, bah, c'est une bonne idée aussi de laisser venir finalement.
Oui, voilà, j'observe les petites décos en me baladant dans la rue, c'est agréable.
Mm-hmm.
Je vois une certaine effervescence dans les yeux des enfants, une certaine... Voilà, on est en cours, les gens se dépêchent, les gens emballent.
Donc vous n'allez pas passer toute la semaine à emballer en tout cas.
Il faudrait un petit peu encore. Mais je me suis trouvée hyper bien organisée cette année, ceci dit.
Ouais, c'est déjà emballé. Vous avez emballé tout ce que vous pouviez.
Mes proches ont bien de la chance de m'avoir, je peux vous le dire.
Vous les avez bien emballés. Je vais la redire, cette blague, encore une cinquième fois, puisqu'on m'a dit que j'étais lourde, j'insiste.
Donc j'ai bien emballé. Et il me reste encore un petit peu de choses à emballer.
D'accord. Mais... voilà. Très bien, d'accord, très bien. Bah, c'est bien. Moi, j'ai pas emballé grand-chose, je dois avouer.
Ah.
Mais j'emballe souvent un peu spontanément.
Au dernier moment.
C'est un peu ça. Mais c'est aussi la spontanéité de la rencontre, finalement. On en vient là, on tombe dessus et on se dit, ah ben ça, je vais l'emballer.
Exactement.
Et voilà. Et c'est bon. Voilà. Il y en a qui font des listes, qui prévoient quand ils vont emballer quoi. Et il y en a d'autres qui
demandent. Que veux-tu te faire emballer ?
Oui, aussi, c'est vrai.
Oui.
Ah oui, ça, c'est vrai.
Oui.
Bon, après, ça peut être pas mal aussi. Hein. On est quand même dans une génération consentement. C'est bien, normalement, de demander avant d'emballer direct, quoi. Ça peut être mal vécu, un emballage trop brusque.
Oui.
Oui, bah voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère qu'il vous reste plein de choses à vous, auditeurice, auditoires, auditeureux, à emballer. J'espère que vous ne vivez pas trop durement, d'ailleurs, cette période des fêtes qui blague dans le coin n'est pas toujours la période la plus agréable, la plus feng shui de l'année. Alors, vous me direz, on sort de novembre, c'était déjà bien la déprime.
Ouais.
Décembre, c'est quand même pas toujours la fiesta du slip. Bon, mais c'est quand ? Mais, en fait, je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous la donner. Mais dès que vous voyez une fenêtre de tir, j'ai envie de dire, allez-y, quoi.
Mais oui.
Et prenez le plaisir.
Je dirais que la première fenêtre de tir qu'on peut vous proposer, c'est le 24 au soir à 23h.
Voilà. Séchez Noël, laissez tomber la famille et les râleurs.
Séchez votre oncle, séchez tout le monde.
Venez avec nous. Et vous savez quoi, en plus, pour le 31 décembre, on vous prépare aussi une surprise. Bah oui, je crois qu'on va péter tous les taux d'audience de Canal B. Je veux dire, à côté de ça, la crème de la crème, ça va être vraiment... vraiment un gagne-pétit.
Ça, c'est de la répartie. Ça va être... alors là...
Oui, je ne trouvais pas l'adjectif qualificatif. Non, mais bon, oui. En tout cas, bon joueur, ne vous lâche pas pendant vos vacances de Noël. Et ça... c'est déjà pas mal, n'est-ce pas ? Bon, mais en tout cas, là, on va peut-être bientôt se dire au revoir. On va se dire à bientôt, Chloé.
Mais à bientôt, Agathe.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission.
Merci à vous, c'est un plaisir, comme toujours.
Ben oui, moi aussi, c'est un plaisir, une exaltation, même.
Ah.
On peut le dire, voilà, et oui. Eh bien, allez, un générique maintenant. Thank you.